Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin, dimanche dernier. Donc, j'ai parlé de Noël, donc le mystère de l'incarnation dévoilé. Et ce matin, nous allons évoquer encore quelques pensées sur le sujet de Noël. Je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai envie de vivre un Noël réussi. J'ai envie de vivre un Noël réussi parce que je crois que la volonté de Dieu, c'est que nous réussissions chacun d'entre nous notre vie. Vous voyez, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est né dans un foyer, dans une famille qui vivait sans compromis face au péché, face à la désobéissance à Dieu. On s'aperçoit que Joseph et Marie étaient des gens intègres et ils vivaient leur foi, leur piété avec beaucoup de sérieux et sans aucun compromis face au péché. On pourrait parler de Noël, vivre un Noël sans aigreur aussi. Vous voyez, quand Jésus est né, la parole de Dieu nous dit qu'ils ne furent pas reçus dans l'hôtellerie, mais Jésus est né dans une crèche et ils sont passés par-dessus le désagrément passager. Mais ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur cette pensée. Vivre un Noël réussi, c'est vivre un Noël plein d'espérance ou plein d'espoir. Est-ce que vous êtes d'accord ? Noël, c'est la lumière qui brille dans les ténèbres. C'est l'étoile du matin qui s'est levée. C'est le soleil levant qui s'est levé également. Alors, on va lire dans Romains chapitre 15 et au verset 13e, un magnifique verset de la parole de Dieu qui nous rappelle que Dieu, c'est un Dieu d'espérance et qui nous veut plein d'espérance également. Romains chapitre 15 et verset 13e, il est dit ceci, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, nous dit la parole de Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. » Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on se rend compte que souvent la joie est avant la paix. Par exemple, quand on lit le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et la paix. Quand Jésus est annoncé, il est d'abord question d'une grande joie qui sera pour tout le peuple le sujet, sa naissance qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Et après, les anges, l'armée céleste parle de la paix. Donc Dieu veut nous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi parler d'espoir ? Pourquoi parler d'espérance ? Parce que je crois que nous vivons des temps qui sont particulièrement marqués par la désespérance. Des temps qui sont particulièrement difficiles sur le plan social, sur le plan sanitaire, sur le plan parfois familial, sur le plan professionnel. Il y a bien des hommes, des femmes aujourd'hui qui vivent dans la désespérance. Je partageais hier avec un pasteur qui me signalait que 20% de la population française est dans un état de dépression nerveuse. Alors, je ne sais pas si les chrétiens sont épargnés par les statistiques, mais j'ai envie de parler d'espérance dans cette période où tout est gris et où tout est marqué par le désespoir. Alors, pourquoi est-ce que les hommes désespèrent ? J'aimerais voir avec vous quelques sources de désespérance et ensuite nous partagerons quelques sources d'espérance. Dans Actes 27, c'est l'apôtre Paul qui est en voyage, un voyage qui va un petit peu mal tourner. Et la Bible dit ceci, Actes 27, verset 20. Ils sont là dans un voyage à Rome, et l'Écriture dit que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance d'être sauvés. La première raison que je note qui consiste finalement à nous amener à perdre espoir parfois et à sombrer dans la désespérance, ce sont les tempêtes de la vie. Ici, c'est une tempête, certes, qui aurait pu être évitée s'ils avaient été un peu plus à l'écoute de la voix du Seigneur, à l'écoute de la parole de Dieu, puisque Paul, en amont, leur avait signalé que la tempête ou que le voyage allait subir une tempête, des dommages, s'ils ne l'écoutaient pas. Mais l'Écriture dit qu'ils ont préféré écouter les professionnels dans le navire. Voyez, parfois, on passe par des tempêtes personnelles, des tempêtes qui nous touchent et des tempêtes qui durent aussi. Et les tempêtes, les difficultés de la vie sont parfois des sources de désespérance. Qui n'a pas connu la tempête parfois dans sa famille, la tempête dans sa santé, la tempête dans ses finances et toutes ces difficultés ont pour objet parfois de nous faire sombrer dans la désespérance. Ici, en tout cas, l'équipage a perdu espoir. Mais gloire à Dieu, au milieu du désespoir et de la tempête, il va y avoir une lueur d'espoir. On le verra tout à l'heure. Une autre source de désespérance, nous la retrouvons dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Et au verset 8, c'est Paul encore qui parle ici et qui enseigne ses croyants de Corinthe. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 8, il dit ceci, « Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction ou littéralement de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés. » Il est question ici de fardeau porté au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Il y a des tempêtes parfois qui peuvent nous faire sombrer dans la désespérance, comme dans Actes 27. Mais ici, il ne semble pas que ce soit le fruit d'une désobéissance ou d'une négligence par rapport à l'écoute de la voix de Dieu, mais c'est directement lié finalement au service du Seigneur. Paul, ici, exprime le fait qu'il a traversé une affliction, une tribulation si forte, si violente, qu'il a désespéré même de conserver la vie. En d'autres mots, il avait envie de mourir à cause de l'affliction qu'il vivait, qu'il expérimentait. Et vous allez dire, mais est-ce que Paul manquait de foi ? Je ne pense pas. Mais vous voyez, quand c'est trop, c'est trop. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont été éprouvés, excessivement accablés, au-delà même de leurs forces. Vous allez me dire, mais pourtant la parole de Dieu dit que le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Mais parfois, frères et sœurs, lorsque nous servons le Seigneur, nous pouvons, pardonnez-moi l'expression, en avoir ras la casquette. Paul ici a bu la tasse et il désespérait avec ses compagnons même de conserver la vie. Il peut arriver que parfois la vie nous brise, que la vie nous casse. Job dira, Job 19 verset 10, « Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. » Et on sait que Job a vécu lui aussi une véritable tempête, une rafale, rafale sur rafale d'épreuves et de souffrances. Il y a des sources de désespérance. Et les croyants les plus fidèles n'y échappent pas. J'aimerais vous encourager ce matin. Une autre source. Lamentation 3:18, je vous le lis, c'est Jérémie qui dit « Ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. » Encore Ézéchiel 37, verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est dans la vallée des ossements desséchés, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Dernièrement, il y a un verset qui m'a interpellé alors que je faisais ma lecture, je dirais, habituelle. C'est Job 15, verset 6, quand il est dit, ce n'est pas moi. C'est ta bouche qui te condamne, ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Vous savez qu'il y a un principe dans la parole de Dieu, c'est que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et que par nos paroles, nous pouvons soit nous bénir, nous auto-bénir, ou nous faire du mal et nous enliser dans le découragement et la désespérance. En réalité, le proverbiste dit que nous mangeons le fruit de nos paroles. Si je suis négatif à longueur de jour, si je parle sur ma vie, sur la vie des gens de façon négative, eh bien, je suis en train de creuser le trou dans lequel je vais m'enterrer moi-même. Ce n'est pas moi, dit le Seigneur, c'est ta bouche qui te condamne. Ce sont tes lèvres qui déposent contre toi. Voilà pourquoi il est bon, lorsque nous traversons des saisons difficiles, non pas de nous plaindre, mais de célébrer et de louer l'Éternel. Il y a certains manques également qui peuvent constituer des sources de désespérance. Le manque de foi. Hébreux 11.1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un manque de foi peut nous induire à la désespérance. Le manque d'amour, 1 Corinthiens 13, verset 7, l'amour excuse tout, l'amour croit tout, l'amour espère tout. Et je dirais même le manque d'intelligence peut constituer aussi une source de désespérance. Le manque d'intelligence face au plan de Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, les deux disciples d'Emmaüs. Les deux disciples d'Emmaüs désespérés. Ils n'avaient rien compris à ce qui venait de se réaliser ces dernières heures. Et lorsque Jésus va venir à leur côté, la parole de Dieu nous dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus va entreprendre une conversation avec eux deux. Et la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, ils vont dire à Jésus, « Nous espérions, il est là Jésus à côté d'eux, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que certaines femmes, etc., etc. » Et à un moment donné, Jésus va les arrêter. Et Jésus va dire dans Luc 24, verset 21, « Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Et ensuite, il va les conduire dans la parole de Dieu pour leur expliquer les Écritures. Et là, l'espoir va renaître parce qu'ils vont comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Pour vivre Noël sans désespérance, il faut connaître la source de la désespérance. Alors j'aimerais m'attarder davantage, bien entendu, sur les sources de l'espoir. Vous êtes d'accord? Dis à ton voisin, on n'est pas trop loin ce matin quand même, avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Allez, vas-y, dis-lui un encouragement filtré. Avec Jésus, il y a toujours de l'espérance. Il y a des sources d'espérance. Et l'espérance qu'il y a en Dieu ne sera jamais trompeuse. Vous savez, il y a des citernes dont Jérémie parlait, des citernes crevassées. Dieu dira, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées. Les bien-aimés de l'époque, au lieu d'aller directement vers le Seigneur, sont allés vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Alors je note ici une première source d'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, un texte bien connu, mais qu'il est bon de se rappeler dans cette période sombre et grise où on a l'impression que tout va mal. Jérémie 29, verset 11 dit ceci, « Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Le Seigneur est en train de nous dire ici que ce qui nous donne de l'espoir, ce sont les projets et qu'il a formés sur nos vies. Vous savez, parfois, on est dans la désespérance parce qu'on a l'impression que tout s'écroule, que rien ne marche, que rien ne va. Je reviens à ces récits de Actes 27, lorsqu'ils étaient dans la tempête, que le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Ils étaient dégoûtés de la vie, ils avaient perdu toute espérance d'être sauvés. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur va se révéler à l'apôtre Paul via un ange de céleste. Et la Bible dit que l'ange va lui parler d'avenir, qu'il devait comparaître, qu'il n'avait rien à craindre, qu'il devait aller à Rome et que là, il devait rendre témoignage à César. Ça veut dire que ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était pas la fin de tout, mais qu'il y avait encore des projets pour l'apôtre Paul. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a plus de projets, que tout va s'écrouler, que tout est terminé. Mais avec le Seigneur, il y a encore de l'avenir. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez des projets familiaux et puis que ces derniers temps, tout s'est écroulé. Vous aviez peut-être des projets professionnels et votre entreprise va au plus mal. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui nous donne de l'espoir, ce qui nous donne de l'espérance, ce sont les projets de Dieu. Quand le Seigneur nous a sauvés, il nous a sauvés avec un plan. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Alléluia! Il a tout créé avec un objectif, avec un but. Moi, je crois, frères et sœurs, qu'il y a encore de grandes et de belles choses pour l'Église ciel ouvert. Il y a encore un avenir et de l'espérance parce que les projets de Dieu continuent. Il n'y a personne qui peut empêcher les projets de Dieu, même si parfois on a fait des mauvais choix, même si parfois on a écouté de mauvaises voix. Le Seigneur est toujours capable de nous ramener dans ses voies. Il est capable de corriger notre trajectoire pour nous ramener dans ses voies merveilleuses et dans ses projets à lui. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à un moment donné, Jonas avait quand même pas mal gâché les choses ? Mais Dieu l'a ramené au cœur de sa volonté pour qu'il accomplisse le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'était que l'évangile soit prêché à Ninive. Le projet de Dieu, c'est que les Ninivites se convertissent, et les animaux aussi d'ailleurs. Sont tous été touchés par la grâce de Dieu. Alléluia! Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Et il ne faut pas chercher là toujours des choses extraordinaires. Vous savez, peut-être que parfois, prendre quelqu'un en autostop pour lui parler de Jésus dans la voiture, c'est probablement une œuvre préparée d'avance. Il faut savoir discerner les œuvres que le Seigneur nous met sur le chemin. Ce n'est pas forcément des grandes choses prêchées aux nations ou je ne sais quoi. Les œuvres préparées d'avance, c'est chaque jour que nous sommes appelés à les pratiquer. C'est, par exemple, faire un sourire à quelqu'un qui est découragé. Je leur souriais lorsqu'ils perdaient courage. Être une source d'encouragement lorsque quelqu'un pleure. Être une source, un facteur de consolation lorsque quelqu'un est découragé, à l'âme abattue, c'est une œuvre préparée d'avance. Amen, pasteur Yvan. Vous savez, Éphésiens 1:18 dit ceci, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Seigneur, illumine ce matin les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Le Seigneur nous a tous, frères et sœurs, appelés à quelque chose. Afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Il y a des œuvres, il y a des projets préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas pour que nous restions les mains dans les poches. Je rends grâce à Dieu pour notre sœur Sylvie Letellier qui a commencé une œuvre parmi les SDF. Une œuvre préparée d'avance. Et alors qu'elle est allée dans la rue ces dernières semaines et ces derniers mois, elle a rencontré un homme qui s'appelle Benoît, qui lui aussi, Benoît, eh bien, rendait témoignage au SDF. Mais chose étonnante, c'est que Benoît avait besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Et on a eu l'occasion de se rencontrer à plusieurs reprises, et par la grâce de Dieu, dans quelques temps, il va se faire baptiser. Parce que ça, c'est une œuvre préparée d'avance. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Vous allez dire, mais pasteur, moi je ne peux plus aller dans la rue, je ne peux plus peut-être faire de grandes choses, je ne peux même plus conduire, donc probablement que je ne peux pas prendre les autostoppeurs. Bon, en même temps, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Hein. Ne vous faites pas agresser, après vous allez dire, c'est le pasteur qui a dit que c'était les œuvres préparées d'avance. Mais voyez, il est dit dans 1 Corinthiens 1, verset 9, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. » On est tous appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia ! Les projets de Dieu sont une source d'espérance. Une deuxième chose qui constitue une source d'espoir, d'espérance, Lamentations chapitre 3, verset 19. Donc Jérémie 29 parlait des projets. Et là, nous allons voir une autre source d'espérance que nous connaissons également. Lamentations chapitre 3 et même verset 18. Lamentations chapitre 3, verset 18. Il est dit ceci. Et j'ai dit, voyez parfois notre bouche qui nous condamne, hein, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pourquoi je dis cela? Qu'il est important de proclamer les choses de façon positive. Parce que la Bible dit que le faible dise je suis fort. Quand tu es faible, proclame la force de Dieu dans ta vie. Verset 19. Rentrons à l'intérieur de nous-mêmes un petit peu. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Qu'est-ce qui va me donner de l'espérance ce matin? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Allez, dis à ton voisin, ça va vous faire du bien. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. C'est la vérité. Allez, dites-le à votre voisin ce matin. Encouragez-le. Encouragez-vous derrière l'écran, allez dans votre famille. Là. Dites à quelqu'un, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Eh, ça fait du bien de venir à l'église, non? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent de temps en temps. Quand il fait beau, quand tout le monde est sympa, quand j'ai le compte en banque bien rempli, quand j'ai une bonne santé, quand les gens sont sympas au boulot. Non, elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Quelqu'un a dit que celui qui est épuisé apprenne à puiser. Alléluia. Le ruisseau de Dieu est... Le ruisseau de Dieu est plein d'eau, frères et sœurs. Alors il nous appartient à nous ce matin d'aller puiser au ruisseau de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu. Ce matin, les bontés du Seigneur se renouvellent. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me fait du bien, ça. Il faut prendre soin de nos âmes, frères et sœurs. Il faut prendre soin de notre vie intérieure. Il faut prendre soin de ce que nous pensons, de ce que nous méditons. Et ce qui va me donner de l'espoir, c'est de savoir que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu a encore le désir de te bénir. Il a encore le désir de te faire du bien. Dieu n'est pas disposé à te corriger. Dieu n'est pas disposé à te faire mal. Dieu est disposé à te bénir, à répandre sur ta vie, à répandre sur les tiens sa bonté. Sa bonté dure, nous dit la parole de Dieu, à toujours, chaque jour. Le Seigneur désire étendre sur nous sa grâce et ses bontés. Oh, que sa fidélité est grande. Je dis amen. Sa colère dure un instant, mais sa bonté et sa grâce toute la vie. Et Jérémie va reprendre courage en réalisant que Dieu est bon. Vous savez, il y a un verset dans le livre des Psaumes qui dit « Mon Dieu est tout bon ». Dieu est bon. Et c'est un facteur d'encouragement et d'espoir. Et bien sûr, je vais terminer avec cette pensée, une des sources d'espérance par excellence. Bien sûr, la bonté de Dieu, il faut savoir aussi la voir, la bonté de Dieu chaque jour, se manifester dans notre vie. Mais l'espérance par excellence, c'est le retour en gloire de Jésus. Frères et sœurs, l'apôtre Paul dira « Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, parce que Jésus revient bientôt. » Vous savez, des fois, on peut avoir l'impression qu'on vive que pour les choses d'ici-bas, que pour les choses d'en bas, alors que nous avons une cité céleste qui nous attend. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Je m'en vais vous préparer une place ?» Oui ou non ? Je ne sais pas si vous avez une belle maison ou un bel appartement, mais ce que je sais, c'est que c'est rien comparé à ce que le Seigneur nous prépare là-haut. Et il ne faudrait pas que nous fixions notre attention uniquement sur les choses d'en bas. Bien sûr, le Seigneur, et c'est une source d'espoir, il a des projets pour nous. Bien sûr, le Seigneur est là chaque jour et il nous bénit dans sa grâce et sa bonté. Mais notre source principale d'espérance, c'est le retour en gloire du Seigneur Jésus. Jésus revient bientôt, alléluia. Jésus revient, il est à la porte. Vous savez, quand vous verrez ces choses, disait le Seigneur, levez vos têtes. Et nous en voyons des choses en ce moment qui devraient nous alerter et qui devraient nous faire dire que Jésus revient et qu'il est à la porte. En fait, l'espérance du glorieux retour de Jésus, c'est la bienheureuse espérance. Tite chapitre 2, verset 10 dit ceci, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. » Jésus revient en gloire et ça c'est glorieux et c'est une source d'espérance pour nos vies. Elle est qualifiée cette espérance de bienheureuse, elle est qualifiée encore de bonne espérance dans 2 Thessaloniciens 2,16 ou encore d'une espérance vivante. Nous l'attendons avec espérance et nous ne l'attendons pas de façon passive, mais de façon active, alléluia. Jésus revient et il revient, en tout cas moi je sais que Jésus revient me chercher, je l'attends de tout mon cœur, alléluia. Alléluia, ça va être formidable quand on va être enlevé sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur avec tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Jésus revient bientôt. Et vous savez, les rhumatismes, par exemple, on n'en aura plus. Les maladies non plus. La Bible parle, lors de son retour, de la rédemption de notre corps. Ce qui est corruptible va revêtir l'incorruptibilité. On va avoir un corps de gloire. Alléluia! on vieillira plus, on perdra plus les cheveux, on n'aura plus de problème de vue. Ça va être super. C'est notre espérance. Ouh, il y en a, on se demande s'ils attendent vraiment le retour du Seigneur, hein. Et ce n'est pas de la déprime que d'attendre le retour du Seigneur. C'est en réalité l'épouse, la fiancée qui attend son époux. Parce que nous sommes amoureux du Seigneur. Nous l'aimons de tout notre cœur et l'esprit et l'épouse disent « Viens Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens nous chercher. » On aura la joie de revoir ceux qui nous ont précédés dans la gloire. Simone le Couteux, on va la revoir dans le ciel. Et tous les autres, ça va être la fête là-haut. Les noces de l'agneau, la nouvelle Jérusalem. On règnera avec Christ pour l'éternité. Et il ne faudrait pas que l'on tombe dans un évangile que du moment où on se bâtit je ne sais quoi sur la planète, alors que notre espérance, elle est dans le ciel. Alors cette espérance, je vais conclure. Il nous appartient de la saisir. Il nous appartient de nous en emparer ce matin. Hébreux 6, verset 18 dit ceci, « Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Ce matin, je ne sais pas dans quel état moral et spirituel tu es, mais ce que je sais, c'est que le Seigneur désire que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire mettre dans ton cœur un flot d'espérance abondant. Un chrétien abonde d'espoir. Alléluia! Parce qu'il sait qu'il a des projets. Amen! Parce qu'il sait que l'avenir est encore beau avec le Seigneur. Oh, alléluia! Je me fais du bien par mon message, moi, ce matin. Parce qu'il sait que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parfois, les gens s'épuisent, mais Dieu n'est pas épuisé. Dieu est toujours bon. Et voilà ce qui nous donne de l'espérance. Et ce qui nous donne de l'espérance, c'est son retour glorieux. C'est sa venue. Mais il nous appartient de saisir l'espérance qui nous est proposée. Et verset 19, Hébreux 6, 19 dit, « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. » Mon âme est assurée. Notre âme, frères et sœurs, est assurée en Jésus. On a une bonne assurance. On a un Seigneur fidèle. On n'a rien à craindre. Même si c'est la tempête autour de nous, même si des gens font naufrage autour de nous, si nous plaçons notre espérance en Dieu, en Jésus seul, eh bien nous ne serons jamais déçus. Il veut nous remplir ce matin. Le fleuve de l'espérance veut couler dans notre cœur. On pourrait se mettre debout dans la présence de Dieu. On va prier le Seigneur, on va demander à Dieu de bénir encore cette fin de réunion. Et peut-être que ce matin, tu es dans un état de désespoir intérieur. Un état de désespérance. Peut-être que tu passes par la tempête, par l'affliction. Peut-être que tes propres paroles ne sont pas disciplinées. Tu t'enterres toi-même dans la désespérance. J'aimerais te dire ce matin, change, prends position et demande à Dieu de changer ton cœur, de changer ton état d'âme. Et viens ce matin à la source de l'espérance. Dieu est la source de notre espérance. Et Dieu te dit, ne désespère pas. J'ai encore un projet pour ta vie. J'ai encore le désir de manifester ma bonté dans ta vie. J'ai encore des compassions à déverser sur toi. Mes compassions ne sont pas à leur terme. Non, tu n'as pas épuisé la réserve de la bonté de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur désire te rafraîchir, te faire du bien, t'encourager. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est généreux. Et si tout est voilé autour de toi, lève les yeux vers le Seigneur. Un jour, le Seigneur dira à Abraham, sors de ta tente, sors de ton confinement moral, lève les yeux et regarde le ciel. Il faut parfois lever la tête, il faut parfois regarder plus haut, regarder à celui qui revient. Il revient sur les nuées chercher son Église, alléluia. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur désire te bénir ce matin. Toi qui es désespéré, toi qui n'en peux plus, toi qui es au bout du bout, toi qui peut-être désespères même de conserver la vie, ce matin, regarde à celui qui est la source de l'espoir et reprends courage dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, je te prie maintenant pour chaque bien-aimé dans ce lieu. Je te prie ce matin pour chaque homme et chaque femme qui désespère et qui est là, qui m'écoute, qui cherche un signe, qui cherche une lueur d'espoir, qui cherche quelque chose qui viendrait, Seigneur, les encourager, les stimuler. Mais Seigneur, c'est toi. C'est toi qui veux les encourager, c'est toi qui veux les relever, c'est toi qui veux les faire déborder d'espoir. Seigneur, que le cœur de l'Église ce matin soit plein d'espoir. Que nous vivions ce matin un Noël par anticipation plein d'espoir. Alors que les gens sont déprimés, alors que les gens broient du noir, alors que les gens sont inquiets, Seigneur, nous voulons nous réjouir en espérance, être patients dans l'affliction. Oui, Seigneur, tu reviens bientôt. Oui, tu reviens sur les nuées du ciel. Et ce matin, nous louons l'Éternel. Nous louons notre Dieu. Nous louons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Alléluia! Nous acclamons Jésus, il revient bientôt, il revient te chercher, il revient me chercher. Nous ne voulons pas nous enliser dans la crainte, dans le nom merveilleux et tout-puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Élevons nos voix dans sa présence, élevons nos voix dans sa présence. Alléluia, alléluia. Corra sakata la marra sakata la barro soya. Oui, louange et gloire à toi, Seigneur.
De toi, mon Dieu, mon Père, mon roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère. Viens inonder mon cœur, viens inonder
Nous espérons que vous avez été encouragés par ce message. Pour plus de renseignements sur notre Église ou découvrir d'autres messages de l'Évangile, n'hésitez pas à visiter notre site églisecielouvert.com et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Nous vous invitons également à nous retrouver chaque semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray pour nos différents